Bonjour. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre vie spirituelle ou dans votre vie tout court, vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous vous en rappelez? C'est important, hein, faut s'en souvenir. Hein. Moi, je suis émerveillée quand je viens chez vous. Toujours. À chaque fois, je vous redécouvre encore autrement et à chaque fois, je vois encore les bénédictions de Dieu sur vous. Et chaque fois, j'ai mon cœur qui grossit comme ça devant le Seigneur, qui dit « Seigneur, merci pour eux, merci pour qui ils sont. » Quand j'entends ce matin, pendant le temps de prière, ces deux personnes-là qui se sont réveillées ou qui vivent des temps difficiles ou des problèmes dans leur vie difficile et qui ont comme ça le chagrin dans leur cœur et qui se réveillent. Et au cours de la matinée, le Seigneur fait le miracle de les réjouir. Cette dame, je ne me rappelle plus ton nom, je suis désolée, qui disait qu'elle a entendu à la radio ce chant joyeux là ce matin qui lui a ramené des bons souvenirs et qui l'a rendue joyeuse. Et puis Marie-Thérèse qui remerciait. Alors je ne connaissais pas Marie-Thérèse avant aujourd'hui. Marie-Thérèse et son mari sont de la région, c'est ça? Et puis le week-end dernier, j'étais dans un séminaire où je discutais avec une dame de la région. Je lui ai dit, ah, il y a une super assemblée à Thonon et tout. J'y vais dimanche prochain. Et elle a envoyé ses amis. Vraiment, la parole de Dieu se répand comme ça et moi je suis éblouie. Alors voilà, c'est pas ma prédication encore, hein. On n'y est encore pas, mais j'avais ça sur mon cœur, j'avais vraiment envie de vous le dire. Et je suis venue au mois de septembre, vous vous rappelez, je suis venue prêcher sur cette parole de Jésus qui dit « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Vous avez réfléchi à ça? Vous y avez réfléchi un petit peu? Oh, vous n'avez pas l'air à vous dormir un petit peu là ce matin? Alors, je suis venue aujourd'hui vous amener un peu une suite. En même temps, j'ai vu déjà ce matin que vous avez mis en pratique. Jésus vous guérit, Jésus vous rend joyeux, c'est déjà la pratique. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse dans ma prédication. Je m'étais trompée, j'avais dit qu'ils avaient partagé la tunique. En fait, ils l'ont partagée, oui, mais ils ne l'ont pas déchirée en deux. Ils l'ont jouée au dé. Parce que justement, là, quand Jésus, juste avant qu'il soit crucifié, ils se sont partagés sa tunique, les soldats, et comme elle était faite dans une seule pièce de lin, elle ne pouvait pas être ni découpée, enfin elle ne pouvait pas être déchirée. Donc voilà, merci pour les personnes qui m'ont dit que je m'étais trompée, et merci de votre indulgence. Alors aujourd'hui, je suis venue encore vous parler de Jésus, parce que quand on l'aime, on ne peut plus s'arrêter de parler de lui. Alors je suis encore venue vous parler de lui, et d'un autre aspect de Jésus. Un aspect vraiment différent qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je me suis attaquée au livre de l'Apocalypse. Et je viens vous le partager. Ça fait peur hein, quand on parle de l'Apocalypse. On se dit, oh là là, ce livre, il parle de choses tellement difficiles, tellement sombres, tellement noires. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on a l'impression que c'est très sombre ce qui nous attend. Eh bien, aujourd'hui, je suis venue vous expliquer que le livre de l'Apocalypse est aussi un livre de persévérance, de fidélité et d'espérance. Vous me croyez? Ah oui, un petit peu. Quelques-uns, oui, et les autres, ils hésitent. Et pourtant, c'est ça. Aussi étrange que cela puisse paraître, au premier coup d'œil, quand on le lit, le livre de l'Apocalypse, ça fait peur. Mais aujourd'hui, on va être un petit peu fou et on va aller le découvrir. On va découvrir comment le livre de l'Apocalypse, à lui tout seul, si on pouvait le résumer, on pourrait dire que Jésus est vainqueur. Vous le croyez? Amen. Allez, on va lui dire Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Ouais. Mais le livre de l'Apocalypse, il ne s'arrête pas là. Apocalypse vient du grec apocalypse. Apocalypsis, c'est pas évident à prononcer. Ça signifie ôter le voile. Le livre de l'Apocalypse est donc une véritable révélation. Il nous révèle ce qui est caché, ce qui est inconnu. C'est pour ça que ça nous fait peur. Il nous révèle aussi que Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Le livre de l'Apocalypse nous encourage à ouvrir nos oreilles et à écouter ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Il nous révèle la gloire de Jésus et sa seconde venue, on a tendance à l'oublier. Il nous montre à quel point Jésus aime son Église et à quel point il la tient. Au début du livre de l'Apocalypse, on peut lire la lettre aux sept églises. Et aujourd'hui, on va lire dans Apocalypse 1 et 2, donc 1 à partir du verset 18, même 17, la fin. On va commencer à la fin du verset 17. « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici. » Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, bien-aimé, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lorsque Dieu a inspiré le livre de l'Apocalypse à Jésus et que Jésus l'a transmis à Jean, ils n'ont pas choisi les sept églises d'Asie au hasard. Ils se sont pas dit, on va aller se balader en Asie, on prendra comme ça des églises. Non, les sept églises d'Asie mineure qui ont été choisies, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, la dernière, sont toutes positionnées le long de l'artère principale qui, à l'époque, allait de Rome à l'Orient. C'était la route marchande, et donc les marchands, les caravanes, tout le monde passait par là. Ces sept églises symbolisent l'Église de Dieu à travers les siècles. La première, l'église d'Éphèse représente l'église primitive. Laodicée, la dernière, représente l'église de maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'église d'Éphèse, des sept chandeliers d'or qui sont représentés par ces sept églises. Parce que les sept chandeliers d'or sont les sept églises. Les sept étoiles dont parle l'Apocalypse sont les sept dirigeants, les pasteurs, les bergers, ceux qui représentent l'Église moralement devant Dieu. Celui qui tient les sept églises dans sa main, vous l'avez deviné, c'est Jésus. C'est donc Jésus qui s'adresse à son église, à ces sept églises et à son église. Il se présente en tant que maître. Il parle avec autorité. Il détient la puissance. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment ce qui apparaît, la puissance de Dieu dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passe et dans ce qui va se passer encore. Puissance qu'il amène par Jésus pour nous. Le but de l'Apocalypse n'est pas de nous décourager, ce n'est pas de décourager les églises. D'ailleurs, il commence par dire qu'il tient l'église dans sa main. Nous ne sommes pas une église qui volons comme ça à tout vent sans savoir où sont nos racines, sans savoir qui est le Dieu que nous aimons ou le Dieu que nous prions. Nous savons que nous sommes l'église du Christ et qu'il nous tient dans sa main. C'est encourageant, hein? À travers cette lettre aux églises et à celle d'Éphèse, Jésus veut rendre attentive son église. Il veut ramener les chrétiens à la réalité de la vie spirituelle, à ce qui peut poser problème dans notre vie et dans nos vies spirituelles et dans l'église. Dans Luc 10, on voit Marthe qui s'affaire dans tous les sens quand le Seigneur il arrive. L'église d'Éphèse avait la même tendance, elle s'affairait. Elle s'affairait dans tous les sens, à la recherche de plein d'activités spirituelles. Pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, dans ce passage, il est écrit qu'elle avait perdu son premier amour. Pourtant, cette église avait eu de belles années. Il est écrit qu'elle avait persévéré dans la foi, dans son dévouement, comme dans sa consécration. Elle avait persévéré dans la bonne doctrine, dans son attachement à la parole. Elle avait veillé à ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ses rangs, à ne pas laisser les faux apôtres s'installer. Cette église avait persévéré en bien. Dans l'un des épîtres de Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, justement, il leur dit « Ayant entendu parler de votre foi, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » C'est dans Éphésiens 1. Donc, de l'extérieur, cette église semblait en ordre. Pourtant, dans le passage de l'Apocalypse qui nous concerne, il est écrit que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Elle l'avait perdu parce qu'elle n'aimait plus Dieu comme il le fallait. Elle était dans un état spirituel sans intimité véritable avec Dieu. Dans un état spirituel superficiel. Cette église était en train de se refroidir. Elle était en train de perdre sa toute première vision, celle de l'amour du Seigneur. C'était l'église primitive. Ils avaient rencontré le Seigneur. Certains parmi eux avaient vécu avec lui. Certains l'avaient croisé sur leur chemin. Pourtant, il se refroidissait. Malgré la maturité qu'ils avaient, Jésus leur le dit au verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En disant cela, il dit, « Tu m'as abandonné. » L'église d'Éphèse, aussi belle et grande et spirituelle soit-elle, avait abandonné son premier amour. Quand je vous parle de l'amour, là, je ne vous parle pas du sentiment d'amour. Le sentiment d'amour, il est noble, il est beau, Mais je ne vous parle pas de ce sentiment-là. Je vous parle de cette relation profonde qu'on peut avoir avec le Christ. Cette relation qui nous touche là. Vous avez senti tout à l'heure pendant la louange, il y avait plein d'émotions qui passaient, il y a eu des témoignages, il y a eu voilà, ces choses qui nous disent, mais Seigneur, viens encore un peu plus près de moi. Viens réchauffer encore un peu mon cœur. Plus jamais, Seigneur, je veux vivre sans toi. Cet engagement profond et véritable que nous devrions tous aspirer à avoir avec le Christ. Parce que Jésus ne s'arrête pas là. Dans le verset 5, on voit qu'il est écrit « Reprends-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est-à-dire qu'il lui enlèvera son identité. Il enlèvera les fonctions. Elle n'existera plus. Jésus est le maître. Il a l'autorité. Il est l'autorité. Il tient les églises dans sa main. De la même manière qu'il les tient, il peut les lâcher. Il peut les ôter. Il peut les supprimer. Il peut les rayer. Le moment venu, il peut leur dire, comme dans Matthieu 7, « Je ne vous connais pas. » Jésus aurait pu agir ainsi. On voit dans la Bible plein de situations où Dieu aurait pu agir ainsi, où des serviteurs, des servantes font n'importe quoi, partent sur n'importe quel chemin, et où Dieu aurait pu agir ainsi. Pourtant, il insiste. Quand on voit Jonas et Ninive, eh ben Dieu, il insiste. Et Jonas, il ne veut pas y aller, mais il y va quand même. Et Dieu, il aurait pu foudroyer la ville. Il aurait pu la recouvrir d'une montagne et qu'elle n'existe plus. Il a persévéré, par amour. Et dans ce livre de l'Apocalypse, dans cette lettre à Éphèse, c'est la même chose. Il a persévéré. Cette lettre a été écrite pour prévenir l'église d'Éphèse, pour prévenir aussi les 6 autres églises. Parce que ces 7 églises ont reçu chacune une lettre, mais les lettres ont circulé. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas le téléphone, mais les lettres circulaient. Parce que les messagers les véhiculaient. Parce que les caravanes qui passaient véhiculaient les nouvelles. Parce que les chrétiens se déplaçaient pour aller s'unir les uns aux autres. Mais à travers cette lettre, il nous prévient aussi, nous. La Bible est un héritage qui nous parle de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Un héritage qui nous prévient des choses que nous avons encore à apprendre. Qui nous montre comment nous devons veiller. Veiller à étudier la Bible, à la lire, à la garder au fond de notre cœur. Peut-être vous vous dites, oui, c'est facile, eux, ils sont étudiants. C'est pas facile, hein? On parlait de ça cette semaine avec des étudiants. Même pour nous, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'Esprit de Dieu, quand vous lui demandez de vous expliquer la Bible, il vous l'explique. Il vous la montre. La parole est une arme puissante qui peut faire reculer l'ennemi si nous l'utilisons bien, si nous apprenons à l'utiliser, si nous l'utilisons avec un esprit d'humilité, de fidélité, de persévérance, avec un esprit de service et d'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous devons veiller, bien-aimés. Veillez à ne pas laisser l'orgueil, l'amertume, la rancœur, la colère prendre le pouvoir sur nos vies. Nous devons veiller à ne pas laisser les faux enseignants, les faux prophètes prendre la place des étoiles c'est-à-dire des pasteurs, des ministères que Christ a placés ou veut placer dans nos églises. Nous devons être vigilants et ne pas laisser la doctrine, ni les activités, ni maman, ni rien d'autre prendre la place de Dieu et le reléguer à un rang bien inférieur qu'à celui qu'il doit occuper. Nous devons veiller dans nos vies comme dans notre Église à ce que Dieu ne soit pas resté dehors quand on ferme la porte. Nous sommes l'Église, bien-aimés. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes filles et fils de roi. On a chanté tout à l'heure qu'on est les maillons dans la chaîne. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas des grands, des petits, des gros, des maigres, des malades, des pas malades. On est tous des maillons. On est tous pareils pour lui. Il nous aime tous du même amour. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous le sommes aujourd'hui, maintenant, ce dimanche, ici, assis. Nous le serons quand nous allons sortir. Nous allons l'être encore toute la journée, nous allons l'être demain, après-demain et encore après-demain. Jusqu'au retour du Christ, nous le serons. Est-ce que dans nos vies, quand nous rencontrons les autres, est-ce qu'effectivement nous répandons autour de nous le fait que nous sommes des enfants de Dieu ? C'est pas évident, hein ? Moi, tout à l'heure, sur la route, j'ai engueulé un vaudois. Il roulait n'importe comment, à mon avis. Je l'ai engueulé. Et après, j'ai dit, « Ah non, Seigneur, je ne dois pas l'engueuler, je dois le bénir. Bénis-le, bénis-le, mais fais-le rouler mieux. » On a des moments comme ça. Hein. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'elle engueulait son mari. Et puis, il y en a d'autres parmi vous. Hein ? Et des têtes qui... Qui n'a engueulé personne cette semaine ? Qui ne s'est pas fâché cette semaine ? On ne va pas devenir parfait dans cette vie. Le seul qu'il a été, c'est le Christ. Mais nous pouvons demander à toujours nous rapprocher plus de lui, à rentrer toujours plus dans cette relation avec lui qui va nous amener à ce que de plus en plus dans notre vie, dans nos relations avec les autres, dans nos propos, de plus en plus la sainteté du Christ apparaîtra. De plus en plus, les gens diront « c'est des chrétiens », sans qu'on soit obligé de dire « oh Dieu » et d'ouvrir nos Bibles. Au cours de ma vie spirituel, j'ai rencontré des gens comme ça qui marchaient avec leur Bible et qui disaient « Dieu, 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 Dieu » à toutes leurs phrases. Et tout le monde fuyait. Je me souviens d'un homme à La Chaux-de-Fonds qui avait un ministère d'évangélisation et tout le monde fuyait. Et il se plaignait tout le temps « Seigneur, tu vois, je parle de toi » et tout le monde fuit. Mais en fait, il avait Dieu à toutes ses phrases. Mais les gens autour savaient la vie qu'il menait et sa vie n'était pas glorieuse. Alors les gens fuyaient quand ils le voyaient. Il n'était pas un témoignage. Sommes-nous des témoignages ? Osons nous interroger de manière individuelle et pour notre assemblée. Osons nous interroger et osons nous demander où en est notre engagement avec le Christ. Osons nous humilier si c'est nécessaire. Osons, afin de pouvoir revenir à notre premier amour et de nous rappeler ce jour où nous nous sommes mis à nu devant notre Seigneur. Ce jour où nous nous sommes convertis, où nous nous sommes fait baptiser. Ce jour où nous l'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Osons le faire. Si nous nous sommes détournés de lui à un moment donné, eh bien, osons lui demander pardon et revenons. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Oui, je sais, ça fait 2000 ans qu'on l'annonce. Mais pourtant, on est dans les derniers temps. Moi, je me souviens, quand je me suis convertie il y a bientôt 30 ans, dans les temps dans lesquels était l'Église et comment j'ai vu, au cours de ces années, les choses avancer. Maintenant, quand les prophètes annoncent qu'on est à minuit moins 5 avant le retour, avant ils disaient on est à 11h30, maintenant on est à minuit moins 5, moi je le crois parce qu'on voit les signes. Et revenir à notre premier amour, c'est aussi nous retourner et nous rappeler ce jour où on a rencontré le Christ, qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur ou qu'est-ce qu'il avait mis avant. Alors que j'écrivais cette prédication, j'étais inspirée sur plusieurs semaines parce qu'il y avait plein de choses à me rajouter. Et au cours de ces semaines, j'ai eu un songe. Parce qu'un soir, alors que j'étais là dans ma prédication en train d'écrire, j'ai dit « Seigneur, mais mon premier amour est-il celui que je pense ou est-il autre chose ?» Moi, je pense avoir un appel pour l'accueil, ce cœur à cœur pour les gens. L'accueil, l'amour, la guérison. Est-ce que je me suis trompée? On est à la fin des temps, où en est l'Église, Seigneur? Et pendant mon sommeil, le Seigneur m'a donné un songe où j'ai vu l'Église de demain, celle des derniers temps, celle de minuit, juste avant le retour. Et ça se passait dans un immense bâtiment, ça donnait un peu l'impression d'être une gare comme ça. Et il y avait des gens qui arrivaient de toutes parts, des blessés. Vous savez, la Bible, elle dit, dans les derniers temps, une immense foule viendra. Eh bien, cette foule, elle arrivait. Elle était là, ils arrivaient de toutes parts. Et il y avait des blessés, il y avait des plaies, des gens qui étaient blessés extérieurs, comme ça, il y avait des blessés à l'intérieur, les blessés de la vie. On en voit, on en croise ces blessés de la vie. Et là, ils arrivaient de partout. Et au milieu, là, il y avait un groupe. Quand ils arrivaient, tous se dirigeaient vers ce groupe. Et je voyais ce groupe qui faisait des signes comme ça, qui les accompagnait un peu plus loin, et il les emmenait dans d'autres pièces où il y avait d'autres groupes. Et en fait, le Seigneur m'a montré que ce groupe, là au milieu, c'était des chrétiens. Il m'a montré que j'étais là, effectivement, dans ce groupe d'accueil. Je n'avais pas à m'inquiéter. J'étais toujours là, vers mon premier amour. Et je vous partage ça parce que je voulais vous encourager. Parce que je n'étais pas toute seule, parce qu'il y avait d'autres chrétiens. Et toutes ces pièces où on les dispatchait, il y avait d'autres chrétiens qui les accueillaient. Certains donnaient à manger, d'autres les aidaient à se laver, d'autres priaient pour eux. Les blessés arrivaient et l'Église était là, debout, au milieu de tout cet enfer. Autour du bâtiment, c'était l'enfer. Ça pétait de toutes parts, c'était le feu. Mais là, le bâtiment, lui, il était comme sous un globe, protégé de l'esprit. L'Église était là, l'Église était debout, bien-aimée. Avons-nous envie de faire partie de cette Église? Avons-nous envie de faire partie de ceux qui vont se lever? Il est écrit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin mangeront le fruit de l'arbre du paradis. Avons-nous envie d'en faire partie? Sommes-nous prêts à nous lever, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il en soit? Sommes-nous prêts à écouter ce que l'Esprit dit aux églises et à le mettre en place? Pour nous, personnellement, chacun, chacune d'entre nous. Parce que c'est en reconnaissant. J'ai rien touché. C'est parce que chacun, vous m'entendez encore? Oui. C'est parce que chacun et chacune d'entre nous se lèvera qu'ensemble, nous formerons le corps entier du Christ. C'est parce que nous serons unis et réunis dans l'amour, toujours, quoi qu'il en soit, dans les bons comme dans les mauvais moments, que le corps du Christ se lèvera et se mettra en place. Sommes-nous prêts ? Le psaume 1 dit « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Soyons ceux qui font la différence et qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. N'ayons plus peur. Tout à l'heure, quelqu'un a prié pour que le peuple de Dieu se lève. N'ayons pas plus peur de nous lever, bien-aimés. Osons, afin d'être des servantes et des serviteurs qui pourront méditer la parole jour et nuit s'il le faut. Dans ce songe que je vous ai partagé tout à l'heure, jour et nuit, les blessés arrivaient, jour et nuit, et le peuple de Dieu était là, jour et nuit. Alors décidons, ensemble, chacun et chacune, de nous lever et d'entrer dans l'intimité de Dieu. Décidons et agissons. Retrouvons notre premier engagement avec le Christ ou avec Dieu afin de faire partie des vainqueurs. Je précise avec le Christ ou avec Dieu parce que certains parmi nous ont rencontré d'abord Jésus et d'autres ont rencontré d'abord Dieu. Donc, voilà. Mais revenons à ce premier amour, à cette première rencontre, afin de faire partie des vainqueurs et d'entendre ce que l'Esprit a à nous dire et ce qu'il dit aux églises. Amen. On va prier. Seigneur, dans ces temps de la fin où tu nous appelles, Seigneur, à toujours nous approcher davantage de toi, à toujours te connaître davantage, Seigneur, moi je veux te demander, Seigneur, de nous aider. De nous aider vraiment, de nous montrer, Seigneur, combien tu es là, de nous aider à lever nos yeux vers toi, à ne pas avoir peur, à ne pas trembler, à ne pas craindre. À nous lever à l'intérieur de nous si nous ne pouvons pas le faire physiquement, à nous lever physiquement si nous le pouvons. À nous lever, Seigneur, pour toi, vers toi et avec toi, afin d'être le sel de la terre, Seigneur, comme tu nous le demandes, et de pouvoir semer la parole autour de nous. Nous ne sommes pas tous des enseignants, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des pasteurs, mais nous pouvons tous être unis par le même esprit, l'esprit d'amour qui est le tien. Aide-nous, Seigneur, à le rencontrer encore plus en profondeur. Amen. Soyez bénis.